le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bienvenue dans ce service protestant ce dimanche matin sur France Culture. Nous recevons aujourd'hui pour le quatrième dimanche du carême la pasteur Florence Blondon de l'église protestante Unie de France à Paris, l'Étoile. Elle s'intéresse à une parabole de Jésus, un fils perdu et retrouvé.
Bienvenue. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le service protestant. Bienvenue où que vous soyez, bienvenue d'où que vous veniez, bienvenue qui que vous soyez. Maintenant, installez-vous, asseyez-vous confortablement. Que ce culte soit pour chacun et pour chacune d'entre nous une halte, un temps d'écoute, un temps d'éveil, un temps d'espérance, un temps de joie. Un temps où Dieu nous invite, un temps où Dieu nous accueille. La grâce de Dieu vous accompagne. Qu'elles réjouissent vos cœurs. Mon Dieu, c'est dans la confiance et la prière que nous nous présentons ce matin devant toi. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelée ta fille. Je ne suis pas digne d'être ta servante. Nous vivons avec nos forces humaines et nous nous passons de toi. Et toi, mon Dieu, tu es devenu un étranger. Et nous n'osons pas revenir à toi. Mais il suffit que tu pressentes le moindre mouvement de retour en nous, même de très loin, et tu accours vers nous. C'est toi-même qui viens nous réconcilier, qui nous tend les bras, qui nous serre sur ton cœur. Tu nous regardes, et ton regard nous purifie. Il nous transforme. Nous sommes si misérables, mais ton cœur est si grand, et ton amour infini. Père, ta bonté dépasse ta justice et tu fais fondre en nous toute résistance à ton amour. Devant Dieu, tout homme, quel qu'il soit, a la même valeur. Sais-tu que tu es enfant de Dieu, que tu es aimé de Dieu, que pour toi, il a tout donné. Que son amour te bénisse, que son pardon te relève et que sa paix t'accompagne. Et c'est donc sur ces paroles de pardon et de grâce que nous allons entamer notre lecture. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, les versets 11 à 32. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partage son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain de reste alors que moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour. Et parce que lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère, il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as abattu le veau engraissé. » Le père lui dit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Le texte dont nous venons d'entendre la lecture, la parabole dite du fils prodigue, est certainement un des passages du Nouveau Testament qui a marqué de son empreinte la théologie, tout comme la littérature, l'art et la culture. Charles Péguy disait à propos d'elle, c'est la parabole de Jésus qui a eu le plus grand retentissement dans le monde. Voici donc un texte bien connu, trop connu peut-être. Qui de nous le lit encore de manière approfondie ? En essayant d'entendre la nouveauté. C'est bien tout le problème de ces récits que nous entendons depuis toujours. Ils sont devenus tellement familiers que nous oublions de prendre le risque d'une rencontre renouvelée. Mais s'ils sont si connus, c'est dû à leur richesse. Il y a toujours quelque chose à creuser, une perle à découvrir. Et après tout, n'est-ce pas le sens même de cette parabole, d'une de ses interprétations? Le perdu retrouvé. Puisque ce récit se situe dans un ensemble de trois paraboles, mises les unes après les autres et introduites par les deux premiers versets du chapitre 15. Tous les collecteurs des taxes et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugréaient. Il accueille des pêcheurs et il mange avec eux. Et nous pouvons donc les entendre comme un ensemble. La brebis perdue est retrouvée, la drachme perdue est retrouvée, et enfin, cette parabole. Saurons-nous redécouvrir l'étonnement, la fraîcheur du message de l'Évangile? Je me sais pour cela précédé par une nuée de témoins qui m'ont inspiré et m'autorisent à continuer de converser avec ce récit. En premier, j'énoncerai ce qui peut apparaître comme une sorte de provocation. J'avoue avoir toujours été un peu agacée par ces lectures qui tout de suite font une interprétation allégorique, assimilant le père de la parabole à Dieu. Lecture certes très riche des pères de l'Église, mais qui a vu une rupture avec la Réforme. Et pour ce texte, Jean Calvin va éviter d'allégoriser chaque détail. Une lecture à hauteur d'homme est déjà très riche. Calvin voyait dans ce Père humain, rempli de compassion pour son Fils, la pâle image de Dieu. Si un homme, pécheur par nature, est capable de pardonner son Fils, combien plus grande est la bonté de Dieu. Et c'est en entendant André Gounel, professeur de théologie systématique à l'Institut protestant de théologie, que j'ai compris combien il était indispensable de lire ce texte comme une histoire d'homme. Non seulement car elle est une relation père-fils, mais également parce que cela peut nous éviter de plaquer des images pas toujours justes sur Dieu. Et c'est l'histoire elle-même qui nous invite à ne pas faire l'économie d'une telle lecture. Le Fils, par deux fois, énonce « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi ». Péché contre le ciel, c'est péché contre Dieu. Le Fils fait donc bien la distinction. Il s'adresse à un homme, son Père. De plus, personnellement, je trouve que ce Père n'est pas si exemplaire que cela. Qu'est-ce qu'un Père qui accède à tous les caprices de son Fils ? Un Père qui ne met aucune limite ? Il me semble bien éloigné de l'image de Dieu qui donne, mais qui également pose des limites. Ces limites indispensables pour canaliser nos envies de toute puissance, nos envies de tout posséder. Et l'attitude de son jeune fils, une fois qu'il a obtenu sa part du gâteau, montre combien il n'est pas préparé. Il est absolument incapable de saisir que ce qu'il a reçu est limité. Il lui faudra en faire l'expérience. Qu'est-ce qu'un père qui n'adresse jamais la parole à son fils ? Son comportement résulte-t-il de l'amour ou bien de la peur de le perdre ? On peut s'interroger également, est-ce que son fils est perdu ? Ou bien, est-ce qu'il est plutôt lâché ? Que penser de son attitude envers l'autre fils ? Il donne au plus jeune, mais il ne lui parle pas. Il parle à l'aîné. Pourtant, ce dernier ne se sent pas autorisé à réclamer sa part de bien et se perçoit en manque d'affection et d'estime. Ce père n'est-il pas un contre-exemple ? Toutes ces questions sont pertinentes. Elles nous invitent à scruter nos existences en tant que fils ou fille et en tant que père, et probablement aussi en tant que mère, même si la mère est singulièrement absente de notre histoire. Comment ne pas se comporter comme cet homme qui laisse partir un fils à la dérive et qui conserve l'autre presque comme un meuble. La parabole nous questionne. Comment accompagner nos enfants sur un chemin qui leur permet de nous quitter pour vivre leur aventure ? Nous pouvons réfléchir à cela. Cette fonction du récit est essentielle et il ne faudrait pas passer outre. Mais un récit biblique, et particulièrement une parabole, ne peut jamais être enfermé dans une seule interprétation. Et avant de prendre un peu de hauteur, j'aimerais tout de même m'intéresser plus que les commentaires les plus courants au fils aîné. Fils aîné. On a dit tant de mal sur lui. Les lectures typologiques en font l'image des pharisiens et par là même assimilent le jeune fils aux pécheurs et aux publicains qui vont suivre Jésus. Mais avant de passer à ce niveau, je souhaiterais réhabiliter ce garçon. Il ne faudrait pas l'accabler plus que son cadet. À hauteur humaine, somme toute, il a pleinement raison. Ce qu'il vit est profondément injuste. Comment son père peut-il ainsi passer les caprices du frère cadet, lui donner ce à quoi lui-même n'a jamais eu droit ? Comment son père peut-il fêter le retour de son jeune frère qu'il a spolié ? Le fils aîné nous semble bien différent de son jeune frère. Et nous sommes spontanément tentés de pardonner le cadet, puisqu'après tout, il a su revenir, lui, vers son père. Pour cela, il lui a fallu auparavant tout perdre et faire la douloureuse expérience du dénuement. C'est d'ailleurs probablement cette expérience qui manque au frère aîné. Il est chez son père, il a tout et il fait tout, comme s'il n'avait rien à combler. Mais sa présence dans cette parabole ne paraît pas indispensable. En effet, tout pourrait s'arrêter avec la fête. Pourtant, il est là, à grogner dans son coin. Lorsqu'on se focalise essentiellement sur les deux premiers tiers du récit, on omet la réaction du fils aîné. On oublie d'analyser l'effet sur l'autre de ce qui est donné à l'un. Et c'est bien le problème de ce père, qui, tout dans sa joie, ne s'aperçoit pas qu'il va perdre son autre fils. Ici, c'est le fils aîné qui devient le fils perdu. Il fait exactement ce qu'il reproche à son frère. Le jeune fils avait quitté la maison, et lui va refuser d'y entrer. Comme lui, il se prive de nourriture, se condamnant ainsi à la faim. Et comme lui, en contestant ce que le père offre à son frère, il réclame son dû, sa part. Les dépenses de son père doivent lui revenir de droit. Mais tout comme son frère, il se trompe sur lui-même. Il se trompe sur ses besoins, il se trompe sur ses envies. Lui devrait sentir la nécessité de rentrer en lui-même pour s'apercevoir qu'il est dans un manque. Le récit nous a énoncé clairement au verset 17 que pour le jeune frère, c'est ce mouvement, rentrer en soi-même, ce travail de questionnement qui sera le premier geste lui permettant de revenir non pas en arrière, mais chez lui, à nouveau et renouvelé. Il faudrait bien que l'aîné puisse faire ce parcours d'introspection que son cadet a effectué. La parabole se termine et la question reste en suspens. Le fils aîné saura-t-il mettre ses pas dans ceux de son frère? Il apparaît que cela est bien difficile de se reconnaître en manque lorsque l'on vit dans une certaine opulence, de reconnaître ses failles lorsque l'on croit tout bien faire. Et ce qui cloche probablement chez lui, c'est de croire qu'il peut se justifier par ce qu'il a fait et d'imaginer que la simple obéissance est suffisante. Il se comporte en réalité non pas en fils, mais en esclave, en serviteur. Et son père n'est pas celui à qui il doit tout, mais celui qui lui doit un salaire. Il ne le voit pas comme un père, mais il l'imagine comme un maître, un employeur. Et lui n'est pas un fils qui sait recevoir gratuitement et du coup donner sans rien attendre en retour. Finalement, ce frère aîné, il nous ressemble tant lorsque nous cherchons toujours à nous justifier, lorsque nous pensons que parce que nous sommes exigeants, performants, nous pouvons tout attendre, tout réclamer. Ce n'est pas la volonté de bien faire qui est critiquable, mais c'est croire que cela est suffisant, et surtout que nous pouvons nous servir de cela pour réclamer un quelconque mérite. Nous sommes donc là en plein dans la justification par les œuvres. Et c'est aussi là que nous pouvons décrocher et quitter nos interprétations humaines, pragmatiques, pour s'aventurer dans une lecture plus spirituelle, plus personnelle. Car les paraboles ont une fonction théologique que nous ne pourrons jamais ignorer et nous ne pouvons nous contenter d'une lecture littérale. Il nous faut alors décrocher. Nous séparer de notre logique humaine, de notre éthique conventionnelle, nécessaire, mais ô combien insuffisante. Car en Dieu, nous sommes invités à vivre l'éthique de l'excès, du déraisonnable, de l'amour incommensurable et gratuit. Il nous faut décrocher pour passer au niveau de la lecture morale, certes indispensable, à celle de la lecture anthropologique et existentielle. Savoir se reconnaître en manque, que cela soit comme le jeune fils, dans le dénuement, ou bien comme le fils aîné dans la plénitude. Savoir que nous ne sommes ni notre propre origine, ni notre horizon. Être capable de dire « Père, j'ai besoin de ton amour. » Désirer l'amour de notre Père. Ce premier mouvement qui permet de se relever comme le jeune fils, qui prenant conscience de sa déchéance, va se relever, comme cela nous est dit au verset 18. « Je me lèverai, j'irai chez mon Père. » Ce verbe, se lever, nous annonce la résurrection, la vie renouvelée que nous allons trouver dans les bras de ce Père qui n'aspire qu'à notre retour. C'est ce que j'ai vraiment compris en contemplant le retour du fils prodigue de Rembrandt, malheureusement une simple reproduction. En premier, parce qu'il représente l'instant de grâce dans lequel je reconnais que le Père aime son fils sans limite et sans condition. L'instant dans lequel je me sens autorisé à m'adresser à ce Père et à lui dire « mon Dieu » et « mon Père ». Et aussi, grâce à cette intuition géniale qui comble le manque du texte, le manque de la mère. Les mains que le père pose sur son fils sont bien différentes. L'une est vigoureuse, masculine, et l'autre est fine et féminine. Et au-delà des mains, les bras entourent le jeune homme, tel l'ovale géniteur de la femme, comme s'il mettait au monde son fils. Le texte lui-même nous suggère cela lorsqu'il nous est dit. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ce verbe qui est traduit par « il fut ému » est bien fade par rapport au verbe grec qui signifie « il fut remué aux entrailles, pris aux tripes, mais également meurtri dans son sein, sa matrice », laissant ainsi apparaître toute la dimension maternelle de ce père. Comme nous l'annonce le prophète Ésaïe, « Et je prendrai soin de vous, comme une mère le fait pour l'enfant qu'elle allait, qu'elle porte sur la hanche et cajole sur ses genoux. Oui, comme une mère qui console son enfant, moi aussi, je vous consolerai. » Et c'est donc dans ce simple geste d'accueil du fils, dans cette embrassade, que je me sens accueillie par mon père. Je suis l'enfant s'écroulant dans les bras de mon père aimant, plein de compassion. En Christ, j'ai appris à appeler mon Dieu Père. Cette parabole nous dit la bonté, la fidélité, l'amour et la grâce de Dieu. Du fond de ma détresse, je peux me relever et courir vers lui avec cette promesse, celle de retrouver le sens de ma vie, celle d'être pleinement vivante, celle de la joie offerte. Amen. Nous venons d'entendre le Notre Père du compositeur arménien Komitas. Et maintenant, où que nous soyons, chacun dans notre langue, nous prions avec ces paroles que Jésus nous offre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous nous quitterons sur ces paroles d'envoi et de bénédiction. Que le Dieu de tendresse, qui a levé Jésus d'entre les morts, fasse lever en nous ce qui est mort, et qu'il nous conduise à la vie. Allons dans sa paix. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacune et sur chacun d'entre nous, et qu'il nous garde dans son amour. Le Seigneur est avec nous tous. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en nous la plus belle des moissons, et qu'il nous transforme en semeurs de son royaume. Le Seigneur est avec nous tous.
Ainsi s'achève ce service protestant avec la pasteur Florence Blondon de l'Église protestante unie de France à Paris, l'Étoile. Merci à Viviane Noël et à Claude Niort pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org et que si vous désirez avoir le texte par courrier, Il vous faut écrire au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy 75 009 Paris. Je vous retrouve tout de suite pour Culture protestante et puis je vous rappelle qu'on se retrouve aussi à 16h pour le carême protestant sur France Culture. Bon dimanche.
Thank you.